Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. Aujourd'hui, on reçoit Amélie Martel, la responsable campagne senior de Human Society of Canada, avec elle on va revenir sur le nouveau règlement du MAPAC sur la question du bien-être animal. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Donc avec toi, on va discuter du plus récent règlement du MAPAC, le ministère de la faune et de la flore et des animaux et autres. On va discuter de ce règlement pour le bien-être animal, c'est assez important et c'est de plus en plus considéré par un ensemble de populations et pas uniquement, on va dire, les jeunes ou souvent à Montréal, on va dire un peu le jeune Generation Z, Millennial, c'est autre chose, mais vraiment un ensemble de la population avec au fur et à mesure une nouvelle considération pour l'animal et une nouvelle considération que ce n'est pas seulement un bien-objet, mais véritablement un être sensible et un être qui doit être aussi doué de droit. Donc on a un nouveau cheminement qui se fait depuis quelques années au ministère, et le ministère, donc avec ce nouveau règlement, vient continuer ce nouveau cheminement. Et je voulais parler avec toi de ce règlement afin que tu puisses offrir aux auditeurs un éclairage sur ce règlement, sur ce qu'il y a encore à faire aussi, parce que beaucoup de travail reste à faire. Ma première question pour toi, Amélie, c'est ces dernières semaines, donc ce nouveau règlement a fait les manchettes. Est-ce que tu peux nous revenir dessus?
Oui, tout à fait. Donc, c'est un règlement qui vise à améliorer le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie, mais aussi des équidés. C'est un grand changement là, de paradigme au niveau du règlement provincial. Puis, ça s'inscrit là, dans un contexte un peu plus large, là, comme tu le mentionnais. Donc, on parle depuis 2015 de la modification du Code civil du Québec.
C'est
Les animaux sont maintenant des êtres doués de sensibilité. Puis, il y a eu la fameuse loi Bessa, là, la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, qui est venue ajouter des protections aux animaux.
Totalement.
Et il y a eu un règlement l'an dernier aussi là qui est venu un peu élargir les espèces visées dans la loi Bessa. Et là, ce règlement-ci, lui, vient faire encore des protections additionnelles donc pour les animaux vraiment domestiques de compagnie et les équidés.
Et ces protections additionnelles sont liées à des questions cosmétiques parce qu'on sait que beaucoup de propriétaires avaient un peu l'impression, lorsqu'on les regardait de loin, qu'ils considéraient leurs animaux comme un Pokémon à personnaliser, mais à personnaliser qui va à l'encontre totalement de leur bien-être. L'exemple parfait et ce qui a fait les manchettes dans ce règlement, c'est le dégriffage de chats. Et si tu peux nous expliquer, le dégriffage de chats, c'est tout sauf une personnalisation qui va dans le sens du bien-être animal. Au contraire, c'est une totale mutilation.
En effet, donc c'est de plus en plus reconnu. Là, en fait, il y a déjà plus de 30 pays qui interdisent cette pratique-là, puis d'autres provinces canadiennes qui avaient déjà pris les devants, là, dont la Nouvelle-Écosse là, dès 2018. Donc, on était déjà en retard sur cette question-là. Le dégriffage, c'est vraiment pas juste de couper les griffes. Le nom est un peu trompeur, à mon avis, parce que c'est une chirurgie qui consiste une amputation d'une phalange. Donc, imaginez littéralement là, qu'on vous coupe certains orteils, par exemple.
Ou qu'on coupe certains doigts et autres.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est faux de dire que l'animal ne subit pas de douleur. C'est également faux de dire que ça n'affecte pas son comportement. Imaginez de marcher avec des orteils en moins. Vous allez être capable de marcher, bien entendu, mais ça va affecter votre démarche et peut-être certaines activités que vous pouvez pratiquer. Par exemple, pour le chat, si on revient à cet exemple précis, ben pour lui, grimper, ça fait partie de ses comportements naturels. C'est sûr que sans ses griffes, c'est plus complexe, ça a des limites dans sa façon de faire, mais également le marquage de son territoire, que c'est important pour lui de pouvoir pratiquer ce comportement-là. Et finalement, c'est son premier mécanisme de défense. Donc, quand on retire un mécanisme de défense à un animal, toujours, ça peut faire en sorte que ça l'escalade plus rapidement. Et là, on parle de morsure qui est beaucoup plus dangereux, en fait, pour nous. Alors, vraiment, le dégriffage, il était temps qu'on l'interdise au Québec.
Il n'y a pas que le dégriffage dans le cadre de ce règlement. On a aussi des changements liés, par exemple, les colliers à pic, qui peuvent faire semblant d'être un peu un outil cosmétique pour un peu marquer sa personnalité sur la personnalité de l'animal, mais ça va à l'encontre aussi du bien-être de l'animal. On a aussi des moyens d'euthanasie et de mise à mort des animaux, par exemple pour les équidés. On avait la fin des chambres à gaz, qui est quelque chose d'assez important quand on les envoyait par rapport au bien-être de l'animal dans sa fin de vie. Cette question de chambres à gaz était allée totalement à l'encontre d'un minimum de respect pour ce qui est maintenant considéré par la loi comme un être sensible. Donc, ce règlement-là vient apporter de bonnes nouveautés.
Oui, oui, vraiment. Puis je pense que c'est très important de célébrer les victoires. Oui, il y a des endroits où est-ce qu'on aurait pu aller plus loin. C'est le genre de révision qui n'est pas faite à chaque 6 mois, on s'entend. Donc, quand on fait cet exercice, c'est important de le faire au complet et d'aller le plus loin qu'on est capable d'aller, où est-ce que la science nous dit d'aller. Mais oui, il y a plusieurs grandes victoires. Si on revient aux chirurgies rapidement, donc la fin de l'essoreillement, donc la taille des oreilles pour des raisons esthétiques, la fin de la codectomie, qui est la coupe de la queue, pour des raisons esthétiques aussi, mais également de la dévocalisation. Puis ces trois choses-là, c'est non seulement des mutilations de l'animal, mais des animaux, mais on parle aussi d'une amputation de leur vocabulaire. C'est leur façon de s'exprimer, le langage corporel des animaux, mais également la vocalisation. Donc, quand on leur fait perdre des nuances dans leur façon de s'exprimer, ça peut entraîner également des problèmes à être compris, des problèmes à nous aviser de leur malaise.
Totalement.
Donc, vraiment, pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons de sécurité publique, je pense que c'est important là, d'empêcher ces chirurgies esthétiques. Et en effet, la fin des chambres à gaz, c'est une grande victoire puisque, je pense que c'est chose connue là, que les chambres à gaz, ce n'est pas une manière éthique de tuer des animaux. ça peut prendre plusieurs minutes pour les tuer. Certaines fois, il y a des ratés. Ouais. Souvent, plusieurs animaux mis ensemble lors des euthanasies, ce qui peut entraîner là, même des batailles, des cris, de la panique à cause du bruit que ça cause. Bref, aucunement une méthode humaine de mettre fin à la vie d'un animal.
Et donc, sur ces questions-là, le milieu associatif a quand même été assez présent. Ce changement de règlement a été fait à la suite d'une pétition que le ministre a pu voir, une pétition qui a été signée par plus de 25 000 personnes. Tu es présente dans le milieu associatif depuis longtemps, Amélie. On se connaît en plus en dehors de toutes ces questions-là, mais c'est quand même intéressant de voir une bonne réussite pour le milieu associatif et une bonne réussite qui doit en amener d'autres.
Tout à fait. Puis c'est sûr qu'une pétition, on s'entend, demain matin, ce n'est pas la seule chose qui va faire bouger une situation, mais ça a mis de la pression au bon endroit. Et surtout par rapport au dégriffage, si je reviens sur cet enjeu-là en particulier, ça aurait été vraiment impopulaire de ne pas aller en ce sens-là. Donc je pense que quand les gens se demandent « ça vaut-il la peine de signer une pétition? » Tout à fait, allez-y, parce que ça peut mettre la pression au bon endroit puis faire bouger certains dossiers.
Et sur ces questions-là aussi, au niveau de l'adaptation, parce que maintenant, avec ces changements, par exemple, pour les mises à mort, il va avoir besoin d'adaptation, besoin aussi de contrôle. Il y a beaucoup, le milieu associatif fait souvent, c'est bien de faire les changements, mais il faut plus de fonds, il faut plus de personnel pour s'assurer que les règles soient, les nouvelles règles soient respectées. Est-ce que tu penses aussi qu'au-delà du changement de règlement, le gouvernement doit y aller encore plus fort pour faire respecter le bien-être animal?
Tout à fait. Ben, premièrement, il faut comprendre que l'entrée en vigueur complète ne sera pas demain matin de ce règlement-là. Donc, ils se sont laissés quand même 18 mois pour y arriver.
Pour l'adaptation.
Donc, on parle d'une entrée en vigueur complète à partir du février 2024. Donc, c'est quand même un délai appréciable.
C'est quand même assez long.
Oui, toutefois, en ce moment, là, je ne crois pas que c'est possible avec les ressources humaines qui sont en place d'assurer le respect des nouvelles règles. Donc, il va falloir recruter, il va falloir s'assurer de couvrir le territoire du Québec qui est immense. Il va falloir également former ces personnes-là adéquatement, puis adopter une approche assez progressiste dans la manière d'appliquer ces choses-là. Finalement, je pense qu'il y a aussi certaines dispositions qui vont peut-être être confrontées à la réalité du terrain. Est-ce que c'est vraiment possible de s'assurer que le chien est sorti une heure? On ne va pas poster un agent à l'extérieur. Donc, quand on adopte des lois, il faut également s'assurer de leur applicabilité sur le terrain. Et je pense que c'est là qu'il y a peut-être eu certaines loupées parce que, pour avoir travaillé dans le milieu, je sais qu'il y a certaines choses qui sont difficiles à mettre en application ensuite, oui.
Et l'exemple parfait, tu parlais de sortir le chien une heure. Oui, dans ce règlement, on a aussi un point important, c'est s'assurer que son propre animal, on lui garantisse un bien-être nécessaire et une bonne vie nécessaire. Et dans tous ces éléments-là, il y a bien sûr s'assurer des sorties, s'assurer qu'il puisse s'épanouir de la manière la plus humaine telle que nous épanouirons et nous aimerions nous épanouir de notre côté. Donc, c'est aussi des points assez importants. Et sur ces questions assez importantes de contrôle de ce bien-être animal, on dit souvent, oui, si vous êtes témoin de cas assez sévères et autre chose, dénoncez-y si vous pouvez retrouver le nom de la personne et autre chose. Est-ce que si on voit, par exemple, je vais prendre l'exemple parfait, je vais me faire l'avocat du diable ou du prospecteur, mais si on voit un chat dégriffé, si on voit les colliers à pic avec un animal où on le voit un peu être dans son mal, vivre un véritable mal-être du fait de colliers à pic ou d'accoutrement qui ira à l'encontre de son bien-être pour ce simple raison cosmétique, est-ce qu'on a le droit de dénoncer grâce à ce nouveau règlement?
Ben, tout à fait. On a le droit de dénoncer. C'est sûr qu'encore là, l'entrée en vigueur de celui-ci n'est pas immédiate. Toutefois, il existe déjà des protections pour les animaux. Alors, si vous voyez des animaux qui sont maltraités ou négligés, je pense que c'est important de communiquer avec les autorités qui verront les dispositions applicables. Donc, vous pouvez communiquer avec le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Et il a des mandataires, le MAPAC. Donc, si jamais c'est pas lui qui l'applique sur le territoire, il transférera la plainte à son mandataire. On peut penser, par exemple, à la SPCA de Montréal qui applique sur un grand territoire de la loi provinciale. Mais il existe aussi des protections parfois au municipal. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on parle du nouveau règlement provincial, mais c'est important aussi de se rappeler, par exemple, à Montréal, les colliers à pic sont déjà interdits.
Totalement,
donc,
règlement municipal.
C'est ça. Pourquoi pas faire un signalement également à la municipalité si vous voyez des choses. Donc, moi, j'encourage les citoyens concernés pour le bien-être des animaux qu'ils rencontrent, comme vous le seriez pour un enfant qui est en détresse ou qui est maltraité. Donc, vraiment avoir cette confiance citoyenne par rapport au bien-être des êtres sensibles qui nous entourent et de faire les signalements appropriés.
Et c'est cette question de sensibilité. Ça en vient au point subsidiaire. C'est si des choses sont faites actuellement pour améliorer la situation, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu travailles sur ce domaine dans la sensibilisation et dans l'éducation, que ce soit de la population comme même des gouvernants, pour pouvoir améliorer cette situation. Le règlement va déjà dans de bonnes directions, mais où c'est qu'il aurait pu aussi aller?
Ouais, il y a quand même plusieurs ratés, là, comme je disais plus tôt, parce que c'est pas un exercice qui va se refaire demain. Et je pense qu'on aurait pu là vraiment être progressiste au Québec, être un leader dans le domaine du bien-être animal. Par exemple, mettre fin aux usines à chiots. Je pense que monsieur, madame, tout le monde le désire, mettre fin à ces industries de masse de reproduction de chiots et de chatons au Québec. On sait qu'on est malheureusement là,
des leaders sur le domaine. Cet été, on a eu beaucoup de polémiques dans ce cas-là
C'est ça. Donc, bon, il y a des clauses qui ont été mises là, pour que les nouveaux éleveurs qui appliquent pour des permis puissent avoir un maximum de 50. On s'entend que si on a 50 animaux reproducteurs, là, on peut reproduire des centaines de chiots chatons par année. Donc, c'est toujours une usine. Et non seulement ça, il y a une clause grand-père là, pour les éleveurs déjà détenteurs de permis. Donc, on n'est vraiment pas venu mettre la hache assez fort dans le dossier des usines à chiots. Et également pour les chiens à l'attache, donc les chiens gardés en permanence à l'extérieur au bout d'une chaîne. Bon, nous, on pense pas là, qu'il faut militer pour une chaîne un peu plus grande ou une heure de liberté par jour. Là. C'est une pratique qui ne répond tout simplement pas aux besoins complexes des chiens. Et on devrait là, juste mettre fin à cette pratique-là. Il y a d'autres juridictions d'ailleurs qui sont allées dans ce sens-là. Les chiens ne peuvent pas être gardés à la tâche, sauf pour un maximum, par exemple, de 30 minutes par jour. Alors, c'est beaucoup plus facile d'appliquer une interdiction globale que de dire ben, t'sais, votre chien peut être à la tâche, mais sa chaîne doit être de telle longueur. On pense pas que c'est suffisant, malheureusement, dans ce dossier-là.
Pour prendre un peu aussi un exemple en tant qu'ancien juriste, dans le droit, toute la question du bien-être animal et toute la question du droit animalier est liée au Code civil du Québec, au Québec. Donc, c'est lié au droit civil. Du côté du droit anglo-saxon, droit canadien, droit américain, voire même droit anglais, britannique, on a de plus en plus la réflexion de donner une personnalité juridique aux animaux. Est-ce que ça serait la conclusion logique à tout ce mouvement afin de vraiment reconnaître la personnalité de l'animal? C'est un être sensible, mais on ne lui donne pas de vraie personnalité. On ne lui permet pas de pouvoir, un minimum, pas de se défendre, mais d'être représenté comme il faut afin d'éviter au maximum ses agressions, mutilations et autres comportements totalement déviants à l'encontre de ce qu'il peut vivre dans la nature et dans notre écosystème. Est-ce qu'il faudrait vraiment aller à ce niveau-là?
C'est une très belle question juridique, puis il y a des penseurs sur la question au Québec, là, Maître Alleroy et compagnie, mais je pense que de donner des droits en effet aux animaux, en ce moment, même s'ils sont reconnus comme des êtres sensibles, plusieurs dispositions applicables aux biens sont toujours applicables aux animaux. Donc, c'est quand même avec certaines limites qu'on applique le tout. Puis, bien qu'il y ait des lois qui sont spécifiques à la protection des animaux, est-ce qu'on va assez loin? Est-ce qu'on a vraiment eu la réflexion sociétale de c'est quoi la place des animaux dans notre vie? Est-ce qu'ils sont vraiment des membres de la famille à part entière? Ou est-ce qu'on a un petit peu une dissonance cognitive à savoir, ben, on sont membres de la famille sur certains plans, mais on se permet certaines choses dans d'autres domaines par rapport aux méthodes d'éducation, par exemple, des méthodes qu'on n'utiliserait jamais.
Sur un enfant.
Exactement, mais qu'on va se permettre d'utiliser sur des chaises et des chiens, par exemple. Donc,
C'est une vraie,
c'est une
véritable question de
réflexion
changement de paradigme.
sociale, ou oui, je pense, une réflexion très grande qu'on doit avoir et peut-être s'inspirer de pays européens qui ont déjà eu des belles avancées dans le domaine du droit animal.
C'est une très bonne question pour terminer cette entrevue et surtout, ça permet d'ouvrir de grosses réflexions qui vont probablement aussi s'impliquer de plus en plus politiquement. On sait que la question du droit animalier, par exemple, en souvenir, avait pu être quelque chose qui avait boosté la première campagne de Valérie Plante à la mairie. On se souvient, bien sûr, de la question des calèches dans le Vieux-Port, la question aussi des pitbulls. Son point de vue face à Denis Coderre, qui était beaucoup plus proche du droit animalier, l'avait aidé un peu à remporter la petite frange d'électorat qui lui manquait pour pouvoir dépasser sur la ligne d'arrivée de Nicodère, et ces questions du droit animalier restent très fortes de plus en plus chez l'électorat jeune, mais même aussi chez un électorat plus, on va dire, boomer et un peu plus vieux. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse de plus en plus. Et merci Amélie d'avoir répondu à nos questions ce midi. Je rappelle que tu es la responsable campagne senior de chez Human Society of Canada et ça sera toujours un plaisir de te recevoir à l'émission pour discuter de ces questions.
Merci à toi.
Passe une très belle journée. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité format estival. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Bonne journée aux antennes de Radio VM.